le magazine des Nations Unies.
Bonjour et bienvenue au magazine des Nations Unies de ce dimanche et en voici le sommaire. Les Nations Unies ont totalisé le 24 octobre 2021 leurs 76 ans d'âge. L'événement se célèbre chaque année au sein du système onusien et cette année le thème choisi était « Femmes, paix et sécurité ». À Kinshasa, la représentante spéciale Bintou Keïta a voulu fêter cet anniversaire d'une manière spéciale en échangeant avec une brochette de 250 élèves et étudiants. C'était jeudi dernier au collège Boboto. Les détails dans cette édition. L'ONU, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, et leurs partenaires se mobilisent contre les discours de haine dans cette sous-région du continent africain. Il s'est tenu à Douala, au Cameroun, un forum régional de sensibilisation et de renforcement des capacités au bénéfice des acteurs des médias des pays de l'Afrique centrale. L'objectif, aider les médias des pays de la sous-région à prévenir les conflits liés à ce phénomène. Nous irons avec vous dans la capitale économique du pays de Roger Mila avec notre envoyée spéciale, Pamela Loubaki. Enfin, avec le ACR, nous irons également dans le nord de la RDC où plus de 6000 réfugiés vivant au nord et au sud d'Ubangi sont en cours de rapatriement dans leur pays.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour. 24 octobre 1945, 24 octobre 2021, 76 ans sont passés depuis la création de l'Organisation des Nations Unies. L'événement est toujours célébré par les gouvernements du monde ainsi que par le système onusien. Cette année, le 24 octobre, c'était dimanche et à Kinshasa, Madame Bintou Keïta, la chef de la MONUSCO, a plutôt choisi la date du 28 octobre, le jeudi dernier, pour échanger avec un échantillon d'élèves et étudiants de la capitale autour de l'histoire de l'ONU, de la mission des Nations Unies en RDC, ainsi que du rôle de l'ensemble des agences de l'ONU dans ce pays. Honoré Missenga Kalala, reportage.
Bonjour les jeunes. Ah, moi j'ai rien entendu. Bonjour les jeunes.
Bonjour.
D'accord.
C'est dans cette ambiance, bon enfant, loin des formalités protocolaires, que la représentante spéciale a démarré ses échanges avec les 250 élèves et étudiants invités venus des quatre établissements scolaires et universitaires de la place. Le cadre, c'était le centre culturel du collège Boboto. En dehors du mot d'introduction de Madame Bintou Keïta, il y a eu des exposés autour de plusieurs sujets, la MONUSCO, les ODD, objectifs de développement durable, le changement climatique, la croissance verte, ainsi que l'entrepreneuriat des jeunes. Concernant ce dernier sujet, la représentante spéciale a répondu à une préoccupation précise.
Nous travaillons avec les jeunes entrepreneurs de la FEC, mais il faut aussi faire circuler les bonnes nouvelles d'engagement.
Et à ce sujet, Bintou Keïta a déploré que les informations sur les actions positives que fait la MONUSCO ne circulent pas et qu'au contraire, ce sont les mauvaises nouvelles qui circulent. Même chose pour les informations sécuritaires.
Rappelez-vous qu'il y a 20 ans et un peu plus, le pays était divisé, le pays était en guerre civile un peu partout. Les Nations Unies ont contribué à ce qu'aujourd'hui à Kinshasa, vous ne soyez pas dans cette situation. Vous ne vous en rendez pas compte parce que vous êtes trop jeune pour ça.
Les impressions de quelques participants à la fin de la conférence.
J'ai pu voir en face Madame Bintou Keïta. Par rapport à l'action de la MONUSCO, j'avais des rumeurs sur ça, disant qu'à l'est du pays, ils ne font presque rien et qu'on sort. Mais lorsque je suis venue ici, on nous a dit en détail ce que la MONUSCO fait réellement. L'image de la MONUSCO a un peu changé, en moi au fait, c'est ça.
J'ai retenu par rapport à cette conférence de jeunes, par rapport à la MONUSCO aussi, on a beaucoup parlé et on a beaucoup aussi retenu des bonnes choses.
Avant les échanges, la représentante spéciale a brossé l'historique des Nations Unies et les raisons profondes qui ont amené les nations du monde à la mettre en place, la paix et la sécurité dans le monde, la promotion et la défense des droits de l'homme, ainsi que le développement de la coopération internationale.
Journée des Nations Unies encore, cette fois à Goma. C'est le 25 octobre que plusieurs agences opérant dans l'est du pays et le gouvernement provincial l'ont célébré. Le ACR, l'UNICEF, la MONUSCO, UNFPA et ONU Femmes ont constitué le décor du système onusien lors de la célébration dont l'activité principale a été une table ronde sur le thème de la journée « Femmes, paix et sécurité ». Et par rapport à ce sujet, le chef de bureau intérimaire de la MONUSCO Goma s'est exprimé. D'après lui, le rôle des des femmes n'est pas encore bien intégrée dans ce qui est fait dans le système des Nations Unies et encore moins dans la société congolaise. Suivez plutôt M. Julius Fandong dans ses propos recueillis par Mathieu Ilunga Chamboui.
Cette année, nous prêtons un peu plus d'attention sur le thème femmes, paix et sécurité pour enchaîner avec les 16 jours d'activisme, la violence contre la femme. Parce que le rôle des femmes n'est pas encore bien intégré dans ce que nous faisons en tant que système des Nations Unies et peut-être dans la société congolaise un peu plus large. Toutes les grandes guerres, tous les grands conflits armés du monde, c'est toujours les hommes qui déclenchent. Et si au Nord-Kiv, la majorité des victimes de conflits armés, plus de 70% même, des victimes de conflits armés sont les enfants et les femmes. Le pillage, viol collectif, les meurtres ou les déplacements, la majorité sont d'une manière régulière des femmes et des enfants. Donc les femmes et les enfants, selon les statistiques, constituent les plus grandes victimes de conflits armés au Nord-Kiv. Mais dans l'élaboration des réponses, les besoins spécifiques des femmes ne sont pas pris en compte.
Autre actualité de la semaine dans le système des Nations Unies, c'est à Douala, au Cameroun. Il s'est tenu dans cette ville du 26 au 29 octobre 2021 un forum régional de sensibilisation et de renforcement des capacités des médias sur la prévention des conflits liés au discours de haine et la lutte contre ce phénomène en Afrique centrale. C'était à l'initiative du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale et la Commission de la Communauté des États de l'Afrique centrale, en collaboration notamment avec le gouvernement camerounais, le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale et la MONUSCO. Rejoignons sur place à Douala Pamela Lubaki pour plus de détails sur ce rendez-vous.
Premier à prendre la parole, le directeur exécutif de l'Association camerounaise des professionnels des médias a remercié les organisateurs de ce forum qui vise à éradiquer les maux du discours de haine dans une sous-région sujette au conflit. D'après lui, cet atelier revêt une importance capitale pour les journalistes car il arrive au moment où la haine a envahi les médias dans la sous-région de l'Afrique centrale. Tabé Taryong.
L'atelier est très important pour les journalistes dans les pays de Centrafrique parce que ça vient d'un moment où la haine a pris tous nos médias. Donc c'est pas de médias qu'on doit combattre cette haine. Faire tout ce qu'on peut pour combattre la haine, la discours de haine, les xénophobies et tous les mots qui sont dangereux dans le média et hors du média.
Au nom de toutes les entités des Nations Unies présentes à ces travaux, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale a, quant à lui, adressé un tableau sombre de la situation en Afrique centrale, en particulier dans les États en proie aux conflits armés, à d'autres crises violentes ou à des processus électoraux tendus. L'enseigne Fall.
Les discours de haine sont utilisés comme armes par de nombreux protagonistes. Les élections présidentielles au Gabon en 2016, au Cameroun en 2018 et en République démocratique du Congo, RDC en 2019. Entre autres, ont donné lieu à une montée de la haine communautaire ciblant les groupes dont ont issu certains candidats.
Depuis Douala, Pamela Lubaki pour Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le MAG UN revient encore sur son entretien avec Monsieur Aboubakar Diaw, chef du bureau de coordonnateur résident du système des Nations Unies en RDC, un entretien réalisé dans le cadre du 76e anniversaire de la Journée des Nations Unies et dans lequel le fonctionnaire onusien parle des objectifs de développement durable ODD. Aboubakar Diaw répond aux questions de Jean-Pierre Elali Koko.
Monsieur Aboubakar Diaw, bonjour.
Bonjour.
Le 24 octobre, c'est la Journée internationale des Nations Unies, mais vous êtes là pour parler avec nous des objectifs mondiaux, les ODD, comme on les appelle. En RDC, tout est prioritaire. Il y a la bonne gouvernance, il y a la consolidation de l'état des droits, il y a la protection des civils, il y a aussi la promotion d'un développement durable et inclusif. Monsieur Aboubakri, commençons par la protection des civils, avec bien entendu la situation sécuritaire dans l'est du pays. Quelles interventions ont été menées par les Nations Unies cette année et quel bilan peut-on faire aujourd'hui?
Merci d'abord de l'opportunité de cette invitation qui nous permet, à l'occasion de cette journée, de parler de ce que le système des Nations Unies est en train de faire dans le pays. Permettez d'abord de clarifier quelque chose. Le système des Nations Unies, c'est un ensemble des agences du système des Nations Unies, fonds et programmes. On en a 22 dans le pays, la MONUSCO, qui travaillent ensemble pour un but bien défini. Le but, au final, c'est l'atteinte, comme on l'a dit, des ODD à l'horizon 2030. Et dans ces pays, nous travaillons à la mise en œuvre d'un cadre de coopération qui a été signé entre le système des Nations Unies dans son ensemble et le gouvernement congolais en décembre 2019. Et ces cadres, sur 4 ans, jusqu'en 2024, permettra de poursuivre un certain nombre d'indicateurs et d'objectifs qui, à la fin, nous permettront d'atteindre ces objectifs de développement durable. Et le cadre de coopération qui a été signé avec le gouvernement s'articule autour de 3 objectifs stratégiques. Le premier objectif tourne autour des questions de paix et de sécurité. Le deuxième objectif tourne autour des questions de développement, parce qu'on ne peut pas dissocier les deux. Et le troisième objectif stratégique tourne aux questions sociales et des renforcements des capacités du pays en matière de services sociaux de base, et aussi de l'assistance humanitaire. Donc, toutes ces choses mises ensemble nous permettent de mettre en œuvre un programme très, je peux dire, ambitieux, qui accompagne les pays dans l'atteinte de ces objectifs de développement durable. Pour revenir un peu sur votre question sur la protection des populations, elle est au centre de la réponse, parce que c'est la finalité. Et le système des Nations Unies, dans son ensemble, a mis en œuvre plusieurs activités dans des domaines divers et variés, qui vont du renforcement des capacités de l'État en termes de police, au renforcement des capacités de l'État sur les questions judiciaires, les renforcements des systèmes de prévention des conflits, etc. Donc, un ensemble de choses complémentaires et diversifiées se mettent en place pour, au final, assurer que la personne qui est au centre de notre intervention a toute l'attention qu'elle mérite, et que tout tourne autour de cette personne-là.
Pour être beaucoup plus concret, est-ce qu'on peut avoir quelques éléments concrets sur vos interventions cette année en République démocratique du Congo sur le plan sécuritaire et sur la protection des civils?
Nous avons mis en œuvre plusieurs activités, et quand je dis nous, c'est toutes les agences du système des Nations Unies ensemble, pour d'abord appuyer la révision du cadre juridique en lien avec la mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise. Donc, c'est d'abord mettre les bases légales pour une police très professionnelle, mettre en place l'accompagnement qu'il faut pour que cette police joue son rôle de protection des populations dans les milieux où elle opère. Nous avons également renforcé la spécialisation, par exemple, des systèmes de justice spécialisés pour les enfants pour qu'on puisse prendre en compte cette composante-là. Nous avons appuyé les communautés et les autorités politiques dans l'identification et la mise en œuvre d'une approche, par exemple, de désarmement à un moment où on sait que le pays est en train de lancer un programme de démobilisation, de désarmement et de réinsertion communautaire. Et le système des Nations Unies dans son ensemble participe spécifiquement par rapport à cette partie réintégration communautaire et stabilisation, parce qu'on sait que la finalité d'un processus de paix et de réintégration des gens, c'est la stabilisation des communautés. Et les agences travaillent avec la MONUSCO pour accompagner ces programmes qui viennent d'être mis en place.
Parlant des ODD, comment appréciez-vous les efforts du gouvernement dans ce domaine et comment les Nations Unies aide les pays pour pouvoir atteindre ces objectifs alors qu'il ne reste que 9 ans, l'échéance 2030 arrive à grands pas.
Elle arrive à grands pas et heureusement qu'on sait déjà ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Donc ça nous donne une idée très claire. Et l'idée claire qu'on a eue, elle a été obtenue suite à un exercice que le Congo a organisé qu'on appelle les revues volontaires des ODD qui a eu lieu l'année dernière, où le gouvernement a montré ce qu'il était en train de faire dans le cadre de l'atteinte de ses ODD, les défis qu'il rencontrait dans le cadre de ses atteintes, et aussi ce qu'il faut faire pour pouvoir atteindre les restes. Donc cette revue volontaire, elle est importante dans le processus de suivi et de pilotage des ODD, et comme son nom l'indique, c'est un exercice qui n'est pas obligatoire et que tous les pays ne le font pas, mais on salue l'initiative du Congo de vouloir le faire parce que ça nous a permis d'avoir une photographie de l'instant et de savoir où est-ce qu'il faut mettre l'accent. La deuxième chose, c'est la priorisation des ODD que le pays a aussi fait. On a 17 objectifs de développement durable. On ne peut pas poursuivre tous les 17 en même temps. On va les prioriser en disant si on atteint celui-là, ça va être peut-être mieux pour nous tout de suite et ensuite on va se focaliser sur les autres. Donc cette priorisation des ODD et des cibles des ODD est aussi un travail qui est très pertinent et qui permet de faciliter la planification qui vient après. La troisième chose que le pays a fait, c'est un cadre d'accélération, sur lequel le pays est en train déjà de travailler. Le cadre d'accélération, c'est identifier là où on est en retard en fonction de la mise en œuvre de ces différents ODD, et mettre en place des plans d'action spécifiques pour accélérer certains ODD. des actions de plaidoyer, des actions de financement, des actions de développement, des actions de mobilisation, de partenariat, etc., qui peuvent permettre d'accélérer les ODD. Donc le pays l'a fait, et c'est une initiative qu'on loue beaucoup, parce que ce n'est pas un pilotage des Nations Unies, c'est un pilotage du ministère du Plan, à travers la cellule des ODD, cellule de veille, et nous, on appuie la mise en œuvre de ces activités à travers cette cellule. Beaucoup d'agences interviennent avec cette cellule pour l'aider dans le travail qu'elle est en train de faire dans le cadre du tracking, du traçage des progrès qui sont faits dans les ODD. Et le ministère du Plan coordonne l'action gouvernementale des ODD en collaboration avec tous les partenaires, pas seulement les Nations Unies, parce que ça va au-delà du système des Nations Unies, les ODD, c'est tous les partenaires au développement qui y sont intéressés. Donc, les politiques qui permettent de faire ces suivis sont là. Et nous, on fait un renforcement des capacités de ces différentes structures pour les aider à mieux faire ce travail-là. L'Institut national des statistiques, incontournable dans le cadre de la mesure des progrès en termes de développement. Donc, tous ces acteurs mis ensemble montrent que le pilotage au niveau national, le système des Nations Unies vient en appui. Et comme je l'ai dit au départ, 23 agences interviennent. Et chacune de ces agences intervient sur plusieurs ODD. Donc, le système est en train d'appuyer, mais surtout d'accompagner, parce que le pilotage, dans la cabine de pilotage, c'est l'État.
Vous êtes optimiste, M. Diao ?
Oui, je pense que dans ce monde, on ne peut être qu'optimiste parce que les défis sont tellement énormes, les obstacles sont tellement énormes que ce qui nous intéressera ou ce qu'il faudra mettre l'accent sur ça, c'est pas est-ce que tel ODD a été atteint ou n'a pas été atteint, mais est-ce que les mécanismes qui sont mis en place sont des mécanismes qui vont nous permettre d'avancer très vite et de pousser. Peut-être qu'on va les atteindre, peut-être qu'on ne les atteindra pas, mais si on les atteint, c'est une chose parfaite. Si on ne les atteint pas, on aura mis en place des mécanismes qui vont permettre aux gens qui vont continuer après de mieux le faire plus facilement.
Monsieur Aboubakri Diaou, merci d'être venu et très bonne fête de la journée des Nations Unies.
C'est moi qui vous remercie.
En plus bref, d'abord cette nouvelle, Madame Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, a été reçue en audience mardi 26 octobre par le président ougandais Yoweri Museveni. Les discussions entre le chef de l'État de l'Ouganda et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC ont porté, selon les sources de la mission, sur les efforts régionaux pour rétablir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. MONUSCO encore, les casques bleus indonésiens de la mission ont organisé une patrouille de sécurisation de longue durée à Nyabiondo, dans le territoire de Masisi, au nord Kivu. C'était du 21 au 24 octobre dernier et au cours de cette patrouille, ces casques bleus ont initié une rencontre avec les autorités locales afin d'évaluer toute la situation sécuritaire et ses conséquences sur la population de cette contrée. Enfin, conférence des Nations Unies pour le climat, COP26, le Fonds international de développement agricole, FIDA, y sera présent. Le forum se tiendra du 1er au 12 novembre 2021 à Glasgow, en Écosse. Et cette institution s'y présentera avec le cahier des charges des producteurs agricoles. Dans cette optique, le FIDA saisira l'occasion pour promouvoir le rôle des petits producteurs dans l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
En rapport avec la célébration de la journée des Nations Unies le 25 octobre et dont le thème cette année a été « Femmes, paix et sécurité », l'invité de cette édition, c'est Amadou Ba. Il est le chef de l'information publique à la MONUSCO Goma au nord Kivu. Son entretien tourne autour des temps forts qui ont caractérisé cette journée sur place à Goma. Il répond aux questions de Mathieu Ilunga Chamboui.
Monsieur Amadou Ba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le responsable de l'information publique dans le Nord Kivu. Les Nations Unies, avec des agences, ils ont célébré la journée internationale des Nations Unies. Est-ce que nous pouvons avoir un peu une idée sur le thème qui a été choisi et pourquoi ce thème?
Effectivement, nous avons célébré aujourd'hui la journée internationale des Nations Unies. Le temps fort de la commémoration de cette journée soit consacré à une table ronde. Puisque, comme vous le savez, c'est une journée des Nations Unies. Il y a évidemment la MONUSCO en tant que mission de maintien de la paix. Il y a les agences spécialisées, à savoir l'UNICEF, HCR, le Fonds des Nations Unies pour la population et ONU-Femmes, donc avec qui il fallait commémorer cette journée.
Mais pourquoi vous avez accentué sur femmes, paix et sécurité?
Pour la bonne et simple raison que, comme vous le savez, les femmes, c'est la moitié de l'humanité. Et dans une région particulièrement meurtrie par des affrontements. En général, ce sont les femmes, les enfants, les filles qui subissent les affres de la guerre. Les Nations Unies font beaucoup de choses. Les femmes aussi font beaucoup de choses. Donc, elles sont victimes de la guerre. En même temps, elles peuvent être justement l'occasion idéale de montrer qu'elles peuvent contribuer à la paix et elles ont un rôle de premier plan à jouer pour le retour de la paix, pour la consolidation de la paix, parce qu'elles se mettent toujours en première ligne.
Il y a beaucoup d'obstacles qui empêchent parfois la promotion ou bien le relèvement de la femme. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là?
La résolution 1325 a été adoptée il y a 21 ans. Pour autant, les femmes continuent d'être victimes de l'injustice. On sait très bien que dans la tradition africaine, hein, ça c'est pas la RDC seulement, donc la femme doit se consacrer au foyer, doit se consacrer à l'éducation des enfants, il y a une division sociale du travail qui est réservée et généralement la corvée aux femmes. Et dans notre culture, de manière générale chez les Africains, on considère que la femme est inférieure à l'homme. Tout ça, c'est des pesanteurs sociales qui pèsent lourdement pour permettre les femmes de sortir de cette différence. Et du point de vue même salarial, même les femmes intellectuelles n'ont pas souvent le même salaire que les hommes et n'occupent pas le même statut. Tout ça font des obstacles majeurs pour une véritable promotion des femmes et pour que la femme se libère du joug du mari. Donc ça, c'est autant d'exemples qu'on peut donner. C'est des injustices aussi qu'elles subissent de manière générale. Hein. Et toute forme de discrimination, y compris la discrimination salariale, sans compter leur exploitation sur les travaux, la corvée, et aussi les violences qu'elles subissent.
En conclusion, quelles sont les recommandations qui ont été prises à l'issue de cette table ronde?
Il y a d'abord cette prise de conscience que les Nations Unies ont fait beaucoup de choses, commencé par la résolution 1325. Ensuite, il y a eu une dizaine d'autres résolutions tendant toutes à la promotion de la femme. Pour autant, on sent qu'il y a encore du retard par rapport à cette progression, cette autonomisation des femmes. Beaucoup d'agences travaillent de concert avec la société civile ici en RDC, de manière générale, pour encore davantage plaider pour cette égalité des sexes et pour que toutes ces formes de discrimination disparaissent, quoi, à travers l'implication des gens et des autres, aussi bien des femmes que des hommes, et qu'ensemble, donc, il y a une possibilité de conjuguer les efforts dans la consolidation de la paix, dans la prévention et le règlement des conflits, et dans la participation de la femme à toutes les autres activités.
Agenda femme, paix et sécurité. Alors, le message.
Le message, c'est que les femmes constituent la moitié de l'humanité. Ici, les femmes en RDC, elles représentent plus de 51% de l'électorat. Donc tout ça amène à dire qu'il faut que les lignes bougent. Il faut que les femmes soient plus représentées au niveau du gouvernement, le Parlement et toutes les instances judiciaires et pour sa pleine participation à l'œuvre de la construction du pays. Et donc, elles peuvent aussi jouer un rôle de premier plan dans les assises qui sont consacrées au retour de la paix et tous les mécanismes et tous les dispositifs qui peuvent ramener la paix. La femme doit être au centre.
Je vous remercie.
Je vous en prie.
Plus de 6 000 réfugiés centrafricains vivant au nord et au sud d'Ubangi en cours de rapatriement. L'opération a démarré le vendredi 22 octobre dernier. Le ACR a pris toutes les précautions pour que les rapatriés retournent chez eux dignement et sécurisés. Tout cela en collaboration avec le gouvernement congolais et centrafricain. Le premier groupe est parti de Molé, près de Zongo, au sud d'Ubangi, pour Bangui et les zones périphériques de la capitale centrafricaine. Faisons le point avec Paul-Richard Malengela.
Le premier convoi routier a ramené du camp de Molé à Zongo 250 passagers. Ces personnes ont ensuite traversé la rivière Ubangi par baleinière à destination de Bangui. Outre les biens de première nécessité, dans leur bagage, certains avaient des documents civils, des certificats de naissance et de fréquentation scolaire obtenus durant leur refuge en RDC. À leur arrivée à Bangui, ces retournés volontaires ont été accompagnés par le maire de la ville congolaise de Zongo. Ils ont été accueillis par le premier ministre centrafricain, entouré du représentant du HCR-RCA, de la coordonnatrice humanitaire pays, de l'ambassadeur de la RDC en RCA et des agences de l'ONU. Le premier ministre centrafricain a manifesté sa gratitude à la RDC pour l'hospitalité réservée à ses compatriotes et au HCR pour le soutien leur apporté durant leur séjour en RDC. En vue de la prévention contre le COVID-19 pendant le rapatriement, il y a eu le dépistage, la fourniture des masques, la prise de température de ces rapatriés. Notons enfin que 9713 individus, dont des camps de Boyabou et Molé dans le sud Ubangi et de Inke dans le nord Ubangi, ont exprimé le désir de retourner dans leur pays. Cependant, le HCR prévoit de rapatrier d'abord 6116 personnes jusqu'à fin décembre prochain. Mbandaka pour Chamalingué, la radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Suivez cette question posée au secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, ainsi que sa réponse, la question qui lui a été posée pendant son dernier séjour en RDC.
Vous venez de clôturer votre visite en République démocratique du Congo par l'étape de Beni après avoir été à Kinshasa, la capitale, Kalemi dans les Tanganyika, Goma et Butembo dans les Nord Kivu. Tout d'abord, pourquoi ces villes spécifiques en dehors de la capitale?
Il était, comme vous le sous-entendez, indispensable évidemment d'aller à Kinshasa et de rencontrer les plus hautes autorités, le président de la République, le gouvernement et aussi la société civile et membres des partis politiques. Après, je crois que le choix de Kalemi, c'est un choix qui correspond à la situation particulière du Tanganyika, où il y a eu dans la plus grande partie du territoire de la province, une réduction de la violence qui permet à la MONUSCO de procéder à une sortie graduelle. Et je dis une partie du territoire parce que, je l'ai expliqué déjà, la MONUSCO va rester présente avec des éléments militaires au nord du territoire. Mais pour le reste, il s'agit d'une transition. L'aspect de poursuite par les Nations Unies du soutien aux efforts des Congolais eux-mêmes, mais dans des modalités qui vont évoluer. En ce qui concerne le Nord Kivu, là c'est différent parce que, évidemment, la situation de sécurité reste très préoccupante. Je note qu'à Beni, les représentants des différents groupes de la société civile qui étaient venus très nombreux à une réunion qu'on a eue avec eux, nous ont tous dit que la situation dans la ville de Beni s'est améliorée. Je pense que c'est important de le dire parce que c'est un résultat positif et il faut dire, lorsque nous avons avec les partenaires congolais des résultats positifs, il faut le dire. Mais évidemment, il y a beaucoup à faire parce que dans le reste de la province et en particulier dans ce qu'on appelle le Grand Nord, il y a le défi des ADF qui demeure sur une bonne partie du territoire.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Un grand rendez-vous planétaire est attendu cette semaine. C'est la conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26. Il se tiendra du 1er au 12 novembre à Glasgow en Écosse. À retenir aussi dans le calendrier des journées de l'ONU, le 5 novembre, la journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflits armés. Et voilà, vous avez compris, c'est la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site www.radiokapi.net, Radio Kapi en un mot. Je suis Belinda Bosuma, j'étais à la présentation. Sylvain Matundu était à la mise en onde. Une émission produite, coordonnée et réalisée par Honoré Missenga Kalala. Merci de votre attention et restez branchés pour la suite des programmes sur la fréquence de la paix.